Chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, ce soir on va vous parler du mouvement social qui se passe ou qui se passe pas, on ne sait pas, parce que pour l'instant, eh bien, l'économie n'est pas bloquée, c'est moins qu'on puisse dire, et on s'achemine, on verra, peut-être vers une énième défaite, je ne sais pas, on va voir. Alors pour ça, pour un peu décortiquer un peu ce qui se passe ou ne se passe pas, on a deux intervenants ce soir, Xavier de Boulogne-sur-Mer, et Philippe de Saint-Nazaire. Xavier, je crois que tu nous entends.
Oui, je vous entends, ouais.
Ouais. Alors raconte-nous un petit peu ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé
sur Boulogne?
Ouais.
Ben écoute, il y avait la fameuse date du 7 là qui était annoncée comme la journée
centrale.
C'est ça, ouais. Où la France serait à l'arrêt. Alors ça a été un petit peu, l'occasion pour l'intersyndicale de faire ce qui se fait toujours un petit peu à Boulogne, hein, c'est-à-dire essayer de taper au porte-monnaie du patronat et donc de mener des actions de blocage sur la zone industrielle portuaire. Voilà.
Oui. Et alors,
moi le regard que je porte là-dessus, il est mitigé. Je pense que il y a quand même des aspects positifs parce qu'il y avait quand même à peu près, 6 points de blocage avec certains qui étaient vraiment de véritables points de blocage et puis à peu près plusieurs centaines de personnes sur le terrain, 400 ou 500 personnes sur le terrain. Quoi.
D'accord. Et ça a duré combien de temps?
C'est un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a commencé vers 3h30 du matin Ça a pris fin vers 15h à peu près.
C'est fatigant la grève, hein?
Ah ouais.
Et quel type de personnes étaient présents, si tu peux éventuellement établir une sociologie? Enfin, tu vois ce que je veux dire, syndiqué, pas syndiqué, jeune, pas jeune, etc.
Comme c'était quelque chose qui était quand même pris en charge par l'intersyndicale, et notamment, évidemment, forcément, la CGT du port, c'était les gros bataillons des entreprises portuaires de la CGT. Mm-hmm. Mais pas seulement, il y avait aussi des gens de la métallurgie, il y avait des gens, même de la CFDT, hein, les gens de la CFDT, des boîtes d'agro, la Continentale de Nutrition, enfin, qui s'appelle plus comme ça, mais peu importe, Novandie, les laiteries, là, enfin, les produits laitiers, voilà, tout ça a convergé sur le port, et puis après, il y avait un petit peu de tout au niveau tranche d'âge, hein, il y avait des jeunes, mm-hmm. Il y avait des moins jeunes, il y avait des femmes aussi. Il y avait des fiteuses, des boîtes de marée qui étaient là sur les piquets aussi. Donc c'était assez mélangé, c'était pas mal du tout.
On pourrait dire, d'après ce que tu décris, que ça correspondait aussi à un besoin, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont répondu présent, c'est que il y avait une demande, en tous les cas, il y avait une envie. Hein.
Écoute, nous on l'a ressenti en amont, c'est-à-dire bien avant la date du 7. Je veux dire, dans les cortèges, c'était le discours un petit peu le plus repris, quoi. C'est-à-dire, on marche, mais on va pas pouvoir marcher comme ça pendant des jours et des jours, quoi. Donc il faut passer à autre chose.
Et alors, en conséquence, quelle était l'ambiance sur le blocage?
Ah bah alors, l'ambiance, bah écoute, elle était très bonne, hein. Ça,
c'est vrai, tu m'étonnes.
Alors évidemment, ça dépendait des points de blocage. Il y a certains points de blocage, je pense que ça dépend un petit peu des équipes qui sont sur le terrain, hein, parce que c'est quand même un peu, comment dire, les équipes se constituent par boîte, hein, c'est mm-hmm. Donc voilà, il y a un côté un peu affinitaire quand même aussi.
Bien sûr.
Il y avait des gens chasubles, siglés de leur syndicat, et puis d'autres pas du tout, quoi. Hein. Je pense que c'était quasiment... on a fait le tour d'à peu près tous les ronds-points, c'était moitié-moitié, quoi, tu vois. Voilà. Et l'ambiance était bonne. Alors certains, bon, quand même, je pense que ça dépendait un petit peu des stratégies aussi de certaines équipes. Certains ont voulu rejoindre la manifestation, donc ont lâché quand les flics ont commencé à se pointer vers 9h. Et avec les pompiers, alors bon, bah, ils ont laissé passer les pompiers, bah, après c'était foutu, hein, c'est terminé. Et puis il y a des endroits où bah, ça s'est pas passé aussi facilement, quoi. Alors là, ça a été un peu plus sportif, on va dire.
D'accord, il n'y a pas eu d'arrestation ni de répression.
Ah bah de répression, ça a quand même flashballé pas mal, quoi.
Ah ouais.
Ah bah ouais. Si, ouais, il y a eu des gens qui ont été percutés d'ailleurs.
Il y a des blessés. Hein.
Ah, il y a eu des blessés, ouais. À partir de flashball, bon, ça a grenadé à qui mieux, ça a chargé.
Sur un blocage syndical.
Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, complètement.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Ah bah, c'est-à-dire que, bah, ici, sur un déblocage syndicaux, c'est ça qui est amusant, c'est que la presse s'est un petit peu déchaînée avec l'ensemble des gens qui ont un peu de pouvoir localement, les patrons, le maire et tout ça. Mais ça se termine toujours comme ça, parce que de toute façon, les patrons réclament que leurs entreprises puissent... la liberté du travail est mise en avant, les CRS arrivent toujours, on sait à peu près quand ils arrivent, et ça se finit un peu toujours de la même façon, quoi.
Ouais, parce que c'est pas la première fois que ça avait lieu, ce genre de choses.
Oh non, pas du tout. Non.
Bah, enfin, moi, je explicite ma surprise, c'est qu'en général, ce genre de truc, surtout dans des rendez-vous comme ça, c'est quand même plus ou moins négocié, quoi.
Ah oui, alors, voilà, c'est-à-dire que, bon, c'est là où tu te dis que, ben, il y a du monde, il y a de l'envie, il y a tout ça, puis c'est pas forcément bien bien orchestré, bien dirigé, bien tout ce qu'il faut, quoi, parce qu'à la limite ça pourrait être beaucoup plus efficace. Bah, d'abord la date à mon avis est très mauvaise, parce que sur une date nationale annoncée partout et bien en avance, tu vois, bah, les patrons des boîtes de marais, ils ont fait le nécessaire avant, ils ont fait partir, bah, évidemment, comme à chaque fois. Bon, alors ceci dit, il en reste à peu près la moitié de camions, je serais tenté de dire que sur à peu près, tu vois, les 200 ou 300 camions qui traînent sur la zone à partir de cette heure-là, hein, je dirais que il y en avait une bonne plus d'un tiers qui restait bloqué.
D'accord.
Donc ça a quand même été efficace. Quoi.
Ouais, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact économique, en tous les cas, on va dire le coût pour le patronat de ce type d'action?
Ah bah, il y a forcément un coût, parce qu'en général, de toute façon, c'est une action qui est un petit peu coordonnée entre bon les gens qui vont mener des blocages de marchandises et arrêter les flux de transport, et puis aussi les électriciens en général. Donc tout le quartier, une fois de plus, a été coupé. Donc les entreprises, bah, les chaînes ne tournaient plus, quoi. Voilà.
D'accord, oui, il n'y a plus d'électricité.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord, ok.
Alors Enedis porte plainte, là.
Partout, à chaque fois qu'il y a ce type de choses, bah, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à autre chose.
Hein. Mais ces gros blaireaux de patrons, ils ne s'organisent pas, c'est-à-dire que... ils sont à flux tendu, ils peuvent pas, baisser la production. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, accorder un jour de congé, pas fermer la boîte quand même, mais fonctionner en activité réduite, puisqu'ils savent forcément que ça va.
Ah, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, parce que nous, on discutait justement avec des fileuses qui étaient là, parce que sur certains points, le truc, c'était de savoir si les gens passaient, avaient le droit de passer, le piquer ou pas le piquer, ou tout ça. Donc, voilà. Donc certaines nous disaient que c'était compliqué parce que, par exemple, pour les petits jeunes qui sont en intérimaire et tout ça, ça va être les premiers qui vont se faire saquer. Donc, en règle générale, eux passaient, quoi, tu vois.
Normal.
Voilà. Par contre, pour d'autres, ça s'est moins bien passé, on va dire. Elle nous expliquait qu'en fait, ils avaient foutu les cadres. Ça, c'était très rigolo. Ils avaient mis les cadres sur les lignes. Hein. Et comme elle disait, on voudrait voir ça pour prendre des photos, parce que...
Ça va. C'est bien, ça va bouger au CSE à la prochaine réunion, quoi. Les mecs vont dire, ouais, quand même, faut des gants. Ouais. Donc tu disais discussion, bonne ambiance et tout, mais discussion quoi, de pluie et beau temps, ou discussion de comment on fait pour que ces jolis moments se poursuivent?
Ah bah, un petit peu de tout, hein, évidemment. C'est... t'avais des discussions. Alors d'abord sur ce qui se passait dans chaque boîte, hein, savoir si il y avait pas mal de gens qui avaient débraillé dans leur boîte ou pas, quoi. Ça, c'est quand même à chaque fois la question, de toute façon. Parce que bon, comme tu dis, de toute façon, les patrons s'organisent, donc ils arrivent toujours à essayer de faire tourner. Mais ça a tourné court, parce que tout le quartier a été complètement... Le quartier, c'est des hectares entiers, a été coupé au niveau électricité, quoi. Donc, ce qui fait que nous, on a vu pas mal de gens repartir, quoi.
Ben ouais.
Les patrons les ont...
Y a pas moyen de bosser aujourd'hui.
Non, ils ont foutu dehors, quoi. Donc, tu voulais les gens repartir, quoi.
C'est quand même pas mal, ouais.
C'est pas mal, ouais. Et puis après, ça a discuté. Écoute, je pense que les gens étaient contents d'être là. C'était plutôt convivial. Passer un bon moment aussi, quoi, tu vois. Et puis, il y avait, selon les endroits, beaucoup d'initiatives qui étaient prises, quoi, pour que ce soit vraiment quelque chose d'offensif.
D'accord. Ouais. Voilà. Super. Nous, on n'a pas ça chez nous. Hein. Ouais.
Et comment tu... J'allais dire, comment tu l'expliques? C'est-à-dire qu'en fait, cette journée du 7, elle est... étrange, comme un peu tout ce mouvement social. C'est-à-dire, c'est comme si on nous avait donné un os à ronger.
C'est un peu ça.
Mais que, quelque part, nos amis syndicalistes, puisque les syndicats sont nos amis, jamais ils ne nous ont trahis, étaient quand même un petit peu emmerdouillés, parce que fallait pas que les gens y s'habituent trop, quoi, et qu'ils prennent trop de plaisir non plus, quoi. Donc, c'était... tenu ce machin, il fallait pas non plus qu'il se laisse déborder par l'enthousiasme. Alors la ligne de crête, elle était assez difficile à tenir, quoi. Donc quelle hypothèse chez toi l'aurait emporté, celle d'un contrôle absolu avec un os à ronger, ou celle de potentialité de débordement, ou en tous les cas de véritable construction de ce putain de mouvement social qu'on attend?
Après coup, moi, je dirais que c'était, bon, il y avait un côté spectacle, hein, très, 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 okay. Honnêtement, il faut quand même pas se leurrer. Mais il y a eu, des espaces qui ont été appropriés, on va dire. Et puis les gens l'ont fait autre chose un peu. Hein. Alors évidemment, ça a été tout de suite le tollé. Hein, et la sous-préfète a immédiatement convoqué les organisations syndicales pour qu'elles... Elle dénonce ce qui s'était passé.
Ouais.
La CGC s'est immédiatement fondue.
Ah bah, évidemment, faut pas pousser. C'est un problème de classe, ça, c'est clair.
Alors là, évidemment. Et nous, les échos qu'on avait de ça, c'est que bon, c'était quand même pas, c'était pas gagné d'avance pour condamner tout ça, quoi. Mais là, on a vu samedi 11, il y avait une manif.
Oui.
Bon, alors là, ça y est, on a vu la bureaucratie cégétiste locale sur les ondes et sur les écrans, condamnée, quoi, en disant, hein, Boulogne, ça s'est toujours bien passé, on ne comprend pas, nous dénonçons les violences, la casse, enfin bon, tu vois le discours habituel, quoi.
Et quelle violence et quelle casse?
Alors la violence, ce qui est dénoncé par la CGT, c'est certaines personnes ont tenté de passer les piquets de grève et elles ont été refoulées, quoi, on va dire. Manu.
Ah oui, ça sert à ça, piquet.
Voilà.
Ouais,
sinon
c'est...
voilà. Donc elles ont été repoussées de façon, je pense, explicite.
Oui.
Voilà. Alors évidemment, ça tout de suite, violence envers les personnes, ceci, cela, enfin bon, bref. Et puis bon, après les barrages, il y avait beaucoup de matériel qui avait été, à mon avis, préparé en amont. Et puis bon, il y a du matériel qui a été pris sur place, comme à l'habitude, quoi.
Oui.
Donc le maire n'était pas très content, parce que tout son mobilier urbain a servi à autre chose qu'à décorer la ville, donc voilà.
Ouais. Faut rappeler quand même qui c'est le maire de Boulogne.
Ah oui, alors le maire de Boulogne, il a eu un secrétariat d'État. Je crois pas qu'il était ministre des Transports, mais enfin, il n'en était pas loin. Ou, enfin, bon, bref, voilà. Hollande,
non ?
Hollande, ouais. Donc, aux côtés de Macron, hein, c'est un grand copain de Macron. En 2017, il avait rallié Macron. Et, c'est quelqu'un qui a fait carrière au sein du Parti Socialiste, mais qui a complètement maintenant endossé les habits, tu vois, de l'aménageur local, quoi. Tu vois, c'est le qui fait de sa ville une vitrine, qui la touristifie à fond, qui coule du béton partout, qui joue la carte de l'aménagement urbain et du tourisme à fond, quoi.
Bah, on peut dire aux auditeurs que l'histoire du Parti Socialiste dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, elle a une histoire particulière, hein, c'est vraiment son bassin d'origine. Et pour les derniers feux qui restaient, c'était des baronnies locales. Hein, c'est-à-dire que chacun a son fief et chacun gère son fief sans empiéter sur le fief du voisin, mais en n'oubliant pas évidemment de se remplir les poches et de constituer son petit pouvoir. Et devant l'effondrement du Parti Socialiste et son aura au Néchon National, il y a certains qui ont réussi à se recycler en ayant un doigt de hollandisme et deux doigts de macronisme, ou l'inverse, hein, évidemment. Et évidemment, Cuvelier fait partie de ces gens qui ont une capacité à se recycler très très vite. Bon, il faut dire que pour ça, il a quand même quelques atouts, c'est-à-dire que Boulogne-sur-Mer est un point hyper important au niveau du transport et de l'industrie, donc il peut jouer à la fois sur les avantages de son territoire pour en même temps cultiver son carriérisme et sa carrière de baron local, et puis de temps en temps monter d'un cran quand il faut, puis redescendre d'un cran quand il faut aussi, quoi.
C'est tout à fait ça. Et puis avec une volonté, je pense, tu vois, aussi de tirer un trait sur ce qui est encore une réalité vraiment tangible ici de au niveau de la sociologie et de l'identité de la ville, quoi. C'est-à-dire que c'est une ville ouvrière. Et évidemment, ça fait un peu tâche, hein. Tu vois, t'imagines quand il y a des journées comme le 7.
Ça ressort, ouais, ça ressort. Les dégoûts débordent.
Alors ouais. Là, tout d'un coup, c'est... Bon, voilà, ça le fait plus, quoi.
Oui, mais le problème, c'est que quand t'as une activité économique qui est basée... sur le mariage, c'est-à-dire la transformation primaire de la pêche, ça va être compliqué d'avoir des bobos pour mettre les mains dans le froid, quoi.
Ah bah c'est complètement. Alors bon, pourtant, on peut dire que ils y mettent de la bonne volonté, mais non, c'est pas, ça fonctionne pas, quoi.
C'est pas Nausicaa qui va embaucher des ch'tis, hein.
Non, voilà, surtout pas.
Bon, ça s'appelle une contradiction, Cuvelier. C'est inhérent au capitalisme. Ça va, c'est dans la même page dans le dictionnaire.
Mais comment la CGT peut, comme ça, condamner ce qui s'est fait, puisque c'était quand même eux qui étaient à l'origine, quelque part, certainement. Comment ils peuvent condamner, parce que maintenant, il est bon, si le mouvement s'arrête. Ça sera une sacrée défaite qu'il va falloir qu'ils assument.
Ah bah c'est une bonne question. Hein. Alors là franchement, ce qu'il y a, je pense qu'ils se sont retrouvés un peu piégés parce que c'est une histoire qui a été montée en épingle par la presse locale, là, tu vois. La presse locale qui raconte n'importe quoi, enfin je veux dire, qui parle de black bloc, de gens qui sont venus de l'extérieur, enfin l'espèce de fantasme que tu vois à chaque fois qu'il se passe, quelque chose.
Ouais, ça peut être que des extraterrestres.
Ouais, voilà, c'est ça, totalement. Et la CGT, au lieu de balayer ça d'un revers en disant, écoutez, il y a une grève, les gens se défendent, enfin bon, bref, tout ce que tu veux. Non, eux, ils ont
plongé la tête la première.
Plongé la tête la première, ouais. Lamentable.
La respectabilité, ça coûte pas cher, hein.
C'est ça, complètement.
Pourquoi faire ? C'est-à-dire se faire, se faire marcher sur la gueule.
Ça finit mal. Je pense que l'addition pour eux va être...
Salée,
ouais. Va être salée, ouais.
On est vraiment des destins de paillassons, quoi.
Ah là, je crois que là...
Alors, chez vous, quand vous aviez les blocages, tout ça, il y avait une manifestation.
Ouais.
Il y a eu une jonction entre les manifestations et les blocages ?
Non, pas du tout.
C'est incroyable, ça.
Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, autant, tu vois, en 2019, il y en avait encore... Il y a eu des belles journées, quoi, à la limite, hein, où là... la manifestation rejoignit les points de blocage à l'intérieur de Capécure. Alors là, évidemment, ça prenait tout de suite
une autre ampleur, bah évidemment.
Une autre ampleur. Mais là, tu sens le poids de la CFDT, quoi. Là, dans ce qui se passe actuellement, tu sens le poids de la CFDT, quoi. Et tu sens que vraiment, ça vient du national, quoi. Là, à aucun moment, alors la manif a effleuré, tu vois, le bord de la zone industrielle, et puis c'est tout. On les a même pas entendus, quoi. Tu vois. Pourtant, elle était très fréquentée. Hein. Il y avait 7 à 8 000 personnes, donc ça, tu les entends, quoi. On les a même pas entendus.
Incroyable.
Et non, mais je pense que là, eh ben, il y a vraiment cette histoire de tenir avec la CFDT, tu vois, jusqu'au bout, quoi.
Jusqu'au bout, hein, c'est ça.
Ouais.
Bah, alors, si on résume, hein, ville ouvrière. Hein. Mobilisation importante, blocage, un peu d'enthousiasme. Ça y est, c'est parti.
Bon, on aimerait le croire, écoute. Ben non, c'est pas parti, parce que le problème, c'est que bah, y a, contrairement à ce qui s'était passé bien avant, enfin je vais dire le 1995 particulièrement, même en 2003, même si on a perdu, il n'y a pas de lieu collectif ici. En fait, ça tient à ce qui se passe un peu dans beaucoup de villes. La bourse du travail a disparu, tu vois.
Mm-hmm.
Et auparavant, c'était le lieu, on ne se posait pas de questions. Il y avait une manifestation, après une manifestation, tout le monde allait à la bourse, et puis...
Ça jactait,
ouais,
ça
ouais, et puis, voilà. Et là, c'est fini. La mairie a fermé la bourse du travail pour inspirer la liberté, a distribué des locaux aux boutiques un peu dans toute la ville, et puis voilà, quoi. Et donc, ça pèse, à mon avis, lourdement sur
l'organisation.
Ouais, complètement. Et moi, quand on a appris qu'ils allaient la fermer, je me suis dit, oh là là, là, ça va être très dur maintenant s'il y a plus...
Mais on est un peu confronté au même problème. Et en plus, ça paraît naturel quand il y a du monde dans la rue de ne pas se quitter comme ça.
Bah, évidemment.
Mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir des espaces. Pour te donner un exemple, chez nous, il n'y a pas eu une seule assemblée générale depuis le début. La seule assemblée, discussion, ça a été celle des étudiants qu'on a squatté, mais ça s'est pas très bien passé. Et puis du coup, samedi, on s'est retrouvés comme des looses. Il a fallu dans sa charité bien chrétienne, la secrétaire de EFO nous ouvre quand même une salle. Donc, tu vois, on est rendu quand même terminé à FO. c'est quand même... bon, peut-être qu'il y a des vieilles bandes anarchistes, je sais pas. Tu te dis, mais quand même, quoi. Mais même le plus misérable des Trosco, il pourrait pas nous ouvrir le parking, quoi. Dehors. Il n'y a aucune volonté, surtout pas, de commencer à ce que les gens se parlent et s'organisent.
Tout à fait.
C'est quand même... C'est pas possible. Alors, il faut jamais préjuger de l'imbécilité d'un syndicaliste, hein, ni d'un trotskiste. Hein. Tout est possible. Mais là, quand même, on peut pas se poser la question de dire, mais ils veulent surtout pas,
qu'il y ait de mouvement.
Non, clair. Et je crois que là, c'est pire que tout. Hein. Là, cette fois-ci, moi, je sens vraiment, quoi. D'intersyndical, le syndicalisme rassemblé, de la présence
poète
de la CFDT, enfin bon, bref, ça
c'est ça à la CFTC, mon pote,
la CFDT, hein, mais le,
ouais non, mais il y a même dans
il y a
toutes les couleurs,
ouais, complètement.
De l'arc-en-ciel,
c'est voilà, quoi. Mais non ouais, ça,
et c'est... Alors l'espoir quand même, c'est peut-être et notamment chez vous, mais pas que, c'est un peu aussi chez nous aussi, peut-être un peu de sang neuf apporté par des éventuels gilets jaunes ou des gens qui n'auraient pas lâché l'affaire et qui auraient quelques habitudes, peut-être.
Peut-être. Écoute, à mon avis, hein, ça, je pense que c'est la voie dans laquelle ça peut s'engager. C'est l'impression que ça m'a donné un peu le 7 mars. Moi, je me suis dit, ah, quand même, quoi. Il y a des réflexes qui n'ont pas été perdus. Il y a quand même des choses qui reviennent vite, une détermination, une réelle détermination. Moi, ce qui m'a... J'ai trouvé ça... Quand les flics sont arrivés sur le barrage, vers midi, eh ben, c'est les ouvriers qui sont allés au contact. Hein. C'est pas les flics qui... d'habitude, tu es derrière ton barrage, t'attends... Et là, non, pas du tout. Hein.
Ça allait bien, mon con.
Voilà, ouais. T'as vu une centaine de mecs monter...
pas de problème, on est là.
Ouais, voilà. Et alors, bon, bah, évidemment, pif, paf, pouf, c'était parti, quoi. Mais...
Ah, et puis c'est pas des étudiants, donc c'est pas la même chose.
Ah non, 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 et là, ça a été tout de suite, bon.
Non, mais les gens attendaient que ça, en plus.
Ah ben, je pense. Ah ben là, là, c'était évident, quoi, évident. Et là, il y avait une belle détermination, et je me suis dit, bon...
Il y a de l'espoir.
Ouais. Oui, 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 parce que bon, comment dire, passer ou pas passer, cette loi, là, de toute façon, à mon avis...
Non, mais attends, soyons honnêtes, sans être naïfs, ça paraît quand même difficile à croire que tout le monde va rentrer chez soi.
Comme ça, du jour au lendemain.
c'est pas possible. Enfin, il va y avoir quelque chose quand même. Il y a encore une journée après-demain.
Ouais.
Peut-être que... il y a des appels à la grève, donc peut-être que vous allez remettre le couvert.
Ouais, c'est bien possible.
Mais peut-être que même ça peut, les gens peuvent prendre confiance, quoi. Donc, mais ça paraît quand même totalement impossible que il y a une telle colère, il y a une telle frustration, il y a une telle envie d'en découdre. C'est tellement parfait comme lecture de classe de la société et les gens peuvent tout à fait s'identifier à un camp, c'est-à-dire nous contre eux. Ceux qui bossent et qui sont obligés de crever la gueule au boulot contre des perlins pimpins qui disent, nous parlent de, de notre vie sans la connaître, que c'est... Enfin, moi j'ai du mal à... Alors peut-être que c'est pour m'auto-convaincre aussi, hein, pour me motiver à aller faire des manifs syndicales.
Bah, moi ce que je me dis c'est que... peut-être que je me trompe aussi, mais ça aurait... du mal à finir alors que ça n'a pas encore commencé. Enfin, tu vois.
Oui. Bon, bah, c'est bien, on est deux à se tromper. Ouais.
Moi, pour moi, là y a, ça n'a pas commencé. Quoi.
Non, ça n'a pas commencé. Non.
Tu vois, bon. Et ça peut sans doute prendre, comme on a été surpris par les Gilets jaunes, une forme même ou une poursuite totalement inattendue. Hein.
C'est... Ouais, et en plus, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on. Mesure pas parce que on n'est pas des commentateurs de ce type de tambouille, mais là-haut ça commence à ronronner et il n'est pas sûr que ce gouvernement Borne-Macron se retrouve finalement pas avec un sacré paquet de nœuds à démêler. Puisque si jamais il n'y a pas de possibilité d'accord en commission mixte paritaire,
oui.
La loi revient à l'Assemblée nationale et il est fort probable qu'il ne trouve pas une majorité.
Vous paraissez très optimiste quand même au niveau institutionnel. Hein. Je ne parle pas du mouvement social, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Par contre, au niveau institutionnel, à mon avis, c'est bouclé. Hein. Bon,
ah non, non, clair. Non, Denis. Ah non. Moi, je pense que c'est tellement des magouilleurs, c'est tellement des gens qui savent quand ils doivent tirer leurs cartes et utiliser toutes les ficelles possibles, que c'est pas joué. Il y a des choses à acheter, il y a des choses à vendre. Chacun et chacune va être capable de jouer son intérêt. Je ne parle pas des députés de la majorité, bien entendu, qui, la plupart d'entre eux, on va dire, les désobéissants, seront à compter sur les doigts d'une seule main, d'un manchot. Mais je pense notamment à la droite, qui elle-même va régler ses propres comptes. Il n'y a rien de noble, hein. C'est pas des gens qui vont se bagarrer pour défendre nos intérêts à nous, mais c'est des gens qui là vont avoir la possibilité de défendre leurs intérêts à eux. Et là-dessus, en général, ils savent très bien le faire.
Ah oui, on peut leur faire confiance.
On peut leur faire confiance.
On va se quitter là.
Hein. D'accord.
Et puis bon, écoute,
bon courage, ouais, en espérant que mercredi prochain soit aussi joyeux que mercredi dernier.
Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on espère.
Très bien. Et ben bon vent, bon vent les Boulonnais.
Ouais. Et ben bis à vous, hein, à bientôt.
Salut.
Salut.
Et ben après la musique, on ira à Saint-Nazaire.
Yeah!
Bon, alors on va couper la musique pour l'instant, puisque on a Philippe de Saint-Nazaire. Bonjour.
Bonjour, les Grégor.
Alors raconte-nous un petit peu ce qui se passe dans votre coin, dans ton coin.
Alors ce qui se passe dans votre coin, il se passe à la fois plein de choses et pas grand-chose.
Ah.
Alors il se passe plein de choses parce qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas des actions de blocage au petit matin par des secteurs mobilisés, hein, les portuaires, la raffinerie, les cheminots, les enseignants, les territoriaux, avec la CGT qui lance ses bastions dans l'action là depuis le 7 mars et même depuis avant, hein, en février, y compris pendant nos vacances scolaires, il y a des opérations de blocage du port, etc. Donc il y a un terme qui correspond assez bien là, qui a été lancé par je ne sais plus qui s'appelle la grévilla. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nouveau mot. Des actions de grève qui s'apparentent davantage à des opérations de type coup de poing et ponctuel plutôt que
des trucs de durée.
Une guerre ou une grève de position et qui s'inscrit dans la durée et un blocage déterminé. Donc il y a à la fois plein de choses qui traduisent une dynamique et une volonté d'en découdre, mais assez peu de choses en termes d'effet d'entraînement et d'impact réel sur la situation économique. Et donc le 7 mars, hein, le mot d'ordre, c'était la France à l'arrêt. Elle a été arrêtée, la ville de Saint-Nazaire a été arrêtée le temps de la manif, mais pas plus, quoi. Avant, parce que ça avait démarré plus tôt. Mais et il y a eu... Il y a eu des reconductions de plein d'actions mardi, mercredi, jeudi, parce que c'est un peu... Les gens n'ont pas envie d'entrer chez eux après la manif et point barre, quoi.
D'accord. Et ce qui s'est passé samedi ?
Samedi, c'était très, très décevant. Samedi, on a eu une manif de 4-5 000 personnes. Par rapport aux 18 000 de mardi, c'était très, très, très réduit. Et une manif sans perspective, quoi. Hein. On a fait la gare, la place de l'Amérique latine, et puis chacun est rentré chez son automobile, et voilà.
Il y a des assemblées générales, des trucs collectifs un peu ?
J'ai pas compris.
Il y a des assemblées générales, des trucs collectifs qui se passent, des échanges ?
Alors, il y a des assemblées générales par secteur et par boîte, hein, c'est-à-dire que pour faire les actions, il y a des AG à la raffinerie, il y a des AG chez les cheminots. Là, ce matin, par exemple, les cheminots sont repartis en piquet de grève et ont fait une action de blocage du dépôt de maintenance et du passage à niveau de proximité avec un barrage très très filtrant. Donc ça, c'est des conséquences de décisions qui ont été prises en Assemblée Générale, hein, pour réunir à faire les choses. Il y a la CGT localement qui fonctionne avec une structure qui s'appelle un bureau des luttes, c'est-à-dire qu'ils réunissent leurs sections syndicales qui sont les plus combatives et puis qui tentent de se coordonner pour les différentes actions, et ce qui nous permet de venir en renfort sur les actions prises par certains secteurs, ce qui permet de nouer des contacts directs quand on est sur les piquets, sur les blocages de rond-points. Hein. C'est essentiellement blocage de rond-points, feux de palette, pneus, pour pousser les flics à faire des déviations, empêcher les accès aux terminaux du port et ce genre de choses. Mais la chose qui nous manque, c'est des assemblées générales interpro, comme on avait pu en connaître en 2019-2020, lors de la précédente mobilisation sur cette question des retraites. Et ça, on n'arrive pas à les mettre en place.
Et alors, on n'arrive pas parce que les gens n'ont pas envie, ça leur vient pas dans la tête, ou parce que ils attendent que ça soit quelqu'un d'autre qui leur dise, ou est-ce qu'il y a une volonté de ralentir, ou en tous les cas de contrôler syndicalement?
Les deux, mon capitaine.
Je crois,
c'est très complexe à analyser. Il n'y a pas de volonté manifeste, hein, de se retrouver. Les syndicats ne l'impulsent pas en dehors de leur structure. Hein, de ce que j'expliquais sur le bureau des luttes, sorte d'AG Interpro, mais interne à la CGT. Même si on arrive, par exemple, sur le secteur éduc sur lequel je suis, on peut être invité en tant que représentant de l'AG Éduc à ce bureau de l'éducatrice et être associé, mais ça reste sous contrôle syndical. Et en même temps, il n'y a pas un mouvement autonome avec des revendications de base qui pourrait soit pousser les structures syndicales à rentrer dans cette logique interpro, soit à s'organiser de façon autonome, indépendamment des structures.
À côté, ouais. Ou en tous les cas, faire le contrepoids. C'est chiant, ça, parce que du coup, ça ne crée pas de dynamique.
Alors, si, parce que... Il y a une dynamique certaine. Hein. Là, on n'arrête pas. La semaine dernière, il y avait la manif. Donc, le mardi, l'éduc, on faisait une AG dans la foulée. Le mercredi, on bloquait le rond-point qui dessert toute la zone des usines Airbus sur Montoir, en lien avec les territoriaux, en lien avec la CGT Airbus, mais qui pèse peu de choses par rapport à EFO, hein, qui tient la boîte. Jeudi, l'AG Éduc en lutte a bloqué un dépôt de transport de cars scolaires, a bloqué une partie des transports scolaires toute la matinée qui n'ont pas pu desservir ce centre de ligne de cars qui était bloqué. Ça a foutu un bordel assez imposant, avec 50 profs qui font un piqué.
Non, vous n'irez pas en cours.
Voilà, c'était un peu ça. Donc il y a des dynamiques, mais le problème, c'est que ces dynamiques n'enclenchent pas au-delà des cercles militants les plus mobilisés, hein, avec des gens qui sont pas forcément syndiqués et qui sont présents, qui sont sur les piquets, qui sont dans les actions quand elles ont été discutées et projetées en AG, mais il n'y a pas d'extension.
Ouais. Et est-ce que quand il y a des actions et des rassemblements, les gens sont quand même, c'était ce qu'on disait par rapport à notre précédent interlocuteur, ils ressentaient et de la satisfaction et de la joie d'être là, ils étaient contents d'être dans l'action.
Ah ben, complètement, sinon les actions n'auraient pas lieu. Hein. Je te dis, avoir 50 profs à 5h du matin, parce qu'on savait que le premier bus partait à 5h30,
faut y aller, quoi.
Ouais. Courant. Et après, sur le piquet, c'était un contact très très intéressant et très chaleureux avec les chauffeurs et les chauffeuses, notamment des différentes lignes de bus, échangent sur les conditions de travail, sur la bataille qu'ils ont menée pour des améliorations salariales, pour des titularisations, les recours au prud'homme sur les heures pas payées. Enfin, il y a des débats, il y a des échanges, c'est riche, quoi, hein, sur les ronds-points, sur les blocages, les piquets. Là, c'était pas sur un rond-point, c'était au portail de la boîte. Les échanges sont chaleureux et on discute, et puis c'est un peu la méthode Coué, hein, on s'auto-convainc sur comment on reste en contact et comment à la prochaine action, c'est vous qui venez en renfort. Et donc ça se noue de façon assez horizontale et chaleureuse, ce genre de contact, mais ça va pas au-delà, quoi.
Oui, mais ça correspond quand même à une demande, à un besoin. Blocages, tu vois.
Il y a une attente, mais qui n'a pas encore une maturité du mouvement qui fait que arrêtons d'attendre des consignes qui viendraient de je ne sais pas où et menons nos propres actions. Ça, c'est ce saut qualitatif-là, il n'est pas encore enclenché.
Oui, mais il est difficile, extrêmement difficile à faire, puisque justement l'intersyndicale distille savamment des petits cailloux pour avoir à faire ce qu'on aurait envie de faire tous les jours, mais bon, on le fait une fois de temps en temps, quoi. Donc c'est aussi cette stratégie syndicale là qui nous met dans un espèce de faux rythme et qui parle fort mais qui n'agit pas beaucoup, quoi. On est un peu aussi dépossédé dans ce truc là, quoi.
L'intersyndicale, c'est un panier de crabes qui s'observe à celui qui va faire le faux pas et démonter en l'accusant d'avoir brisé l'unité et de ce genre de choses. Donc, et en plus, tout est extrêmement hiérarchisé et verticalisé. C'est-à-dire que on attend les mots d'ordre du national pour qu'ils soient déclinés au niveau départemental et pour enfin appliquer les décisions au niveau des unions locales.
Ouais.
On est dans ce schéma et il n'y a pas d'autonomie de calendrier. Tout est calqué sur le calendrier dicté par le national en passant par l'état départemental. C'est-à-dire que, à part quelques secteurs qui sont très combatifs et très organisés, hein, par exemple les portuaires et les marins sur le port, là, qui eux ont une certaine autonomie d'action mais qui restent dans le cadre de la CGT, on reste pieds et poings liés à ce fichu calendrier dicté depuis Paris.
Bon, alors passage fantasme, hein, quand même, parce que chez toi, c'est quand même le point dont on parle tout le temps, même si c'est pas forcément le point le plus important. Comment ça se passe à Donge ?
Alors Donge, la raffinerie, c'est très grosse grève.
Ouais.
93% de grévistes la semaine prochaine. Sauf que ils savent pas combien de temps ils vont pouvoir tenir. Donc là, pour l'instant, la fabrication, les dépôts, les transports sont bloqués, mais comme il y a du stock, il n'y a pas de spectre de pénurie
qui d'accord,
se profile, donc il n'y a pas forcément de conscientisation.
Donc il faut que tout le monde aille prendre de l'essence pour, en solidarité avec les grévistes.
c'est un peu ça, mais même là, enfin en tout cas, en termes d'opinion, de ressenti au quotidien, la grève pour l'instant, elle peut très bien passer inaperçue si tu ne sais pas que la raffinerie est bloquée.
Normalement, il y a de la thune. Normalement, les caisses de grève, elles ont explosé de partout. On reçoit des informations de ci, de là, que les caisses de grève sont archi remplies, quoi. Il y a vraiment, notamment, alors, celle la plus connue, c'est celle de la section information et communication, Infocom de la CGT, qui est blindée. Mais de ci, de là, ça doit tourner aussi, quoi. Donc, argent, ça va, mais après, l'argument qui est mis en avant, c'est qu'on ne fera pas grève tout seul, quoi.
C'est ça. Je pense que, bon, financièrement, le problème est... Enfin, l'argument financier sur on fait grève, on n'est pas payé, c'est un faux problème. L'argument, c'est est-ce qu'on reste seul dans les secteurs et on sait que... notre grève sera contournée, c'est un peu la question que se posent les raffineurs. Ou est-ce que ça fait tache d'huile et on est rejoint et ça bloque réellement. Sauf que là, pour l'instant, ça bloque pas réellement.
Ah, ça veut pas, hein, oui, mais il y a toujours, c'est quand même cette conception un peu étriquée de ce qu'est la sociologie des travailleurs et du prolétariat aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que pour faire grève, faut être dans un collectif de travail. Sinon c'est pas intéressant, et des collectifs de travail il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus de gens qui sont atomisés, quoi, qui sont
oui. Ben là, exemple, un Donge, quand j'annonce 93% de grévistes, c'est les salariés Total et Antar.
Mm-hmm.
Si on regarde les boîtes de sous-traitance qui sont sur la maintenance, qui sont sur le stockage à l'intérieur, etc., etc. Ce type de boîte, elle tourne, elle bosse et elle intervient.
Ouais. Donc, de fait, il y aura un morceau qui sera grève par procuration. De fait, c'est pas, ça paraît pas possible autrement, quoi. Non ?
c'est ce qui se passe. Il y a des grèves massives, mais après il y a aussi une mise en spectacle et un aspect des démonstrations. On monte l'écrou où il y a aussi plein de secteurs qui sont sur les actions entre 5h et 7h le matin, hein, pour diffuser les tracts, sensibiliser la population, faire chier, foutre un peu le bordel au niveau de circulation, mettre les flics sur les dents, et puis qui à 8h reprennent le boulot.
Ouais. Alors paradoxalement, chez nous aussi c'était le cas, la manif du samedi a été moins nombreuse que la manif du mardi.
Ah bah oui, c'est aussi, très nettement.
C'est intéressant quand même, hein.
Comment tu l'analyses, toi ?
Ben, je pense que les gens mobilisés dans la semaine sont crevés.
Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, ça c'est purement factuel, oui.
L'extension ne jouant pas, le fait de dire les gens qui ne peuvent pas faire grève vont sortir le samedi pour se mobiliser, ils l'ont fait une fois, de façon assez massive, et comme ils ne sont pas dans des dynamiques, ce que tu disais, ils ne sont pas dans des dynamiques de travail, de lutte et de structure collective où on peut réfléchir à ce qu'on fait et puis se mettre en ordre de marche collectivement, et ben là, ils n'ont pas répondu à l'appel et à la grève précédente.
D'accord. Ah oui, je ne l'analysais pas comme ça, j'attendais pas cette réponse. Je l'analyse comme un truc en disant, c'est d'abord un mouvement de lutte et un mouvement de classe, et du coup, ben, les gens, ils vont dans la rue parce qu'ils font grève. Et donc, ils manifestent, et ils mettent les deux choses en relation. Et comme le samedi, c'est plus mouvement d'opinion, c'est moins lié au travail, c'est moins matérialisé comme rapport de force, ben ils se disent c'est pas pour nous, puisque le samedi c'est pour les gens qui font pas grève, quoi. C'est pas la même et d'ailleurs c'est pas la même sociologie, quoi.
Oui, mais c'est pas contradictoire avec ce que...
non du tout. Jamais.
c'est sauf qu'en plus les gens qui ont, enfin, physiquement ça commence à tirer pour oui. Un certain nombre de gens d'être sur la brèche 24-24 du lundi au vendredi, quoi. Donc
alors du coup, mercredi.
Alors bah, mercredi ça a déjà commencé, hein. il y avait une action SNCF là ce matin. Alors j'ai pas eu de retour de la centrale de Cordemais, mais la centrale de Cordemais était bien bloquée aussi au niveau électrique, et normalement ils avaient des choses ce matin. Les territoriaux rebloquer leur rond-point là, qui permet de bloquer une bonne partie de la 4 voies aussi ce matin. Demain, bis repetita, l'éduc fait des choses aussi. Et donc tout ça dans un espoir de convergence mercredi. Donc mercredi, on essaye de faire une AG éduc ouverte s'il y a des gens de l'Interpro qui veulent nous rejoindre. Et puis nous, ce qu'on essaye d'appuyer au niveau de l'intersyndicale locale, c'est de dire bon, ben, jeudi, il faut que, faut pas que les gens rentrent, il faut qu'on pose ça à l'issue de la manif, qu'on coordonne les actions de blocage des ronds-points par différents secteurs, de façon à essayer de faire réellement une opération Saint-Nazaire vide morte en bloquant tous les accès à la ville, avec chaque secteur prend un rond-point, c'est relativement simple à mettre en place,
à gérer, hein, ouais,
un cul-de-sac. Après, est-ce qu'il y aura la volonté et militante de le faire à la base, et logistique de l'intersyndicale de se réapproprier cette stratégie, là, ça va discuter sec demain et mercredi pour ça.
Ok, bah écoute, hein, on va te remercier. Je crois que tu as d'autres choses à faire, d'après ce que tu m'as dit. Et puis, bon courage pour cette semaine.
Ok.
Ouais, à bientôt, Philippe. Ben, salut, bon courage.
Courage à vous, à bientôt, salut.
Salut. Bon, alors, nous, on n'a malheureusement pas autant de choses à vous raconter, hein, sur Reims. Hein, normalement, les auditeurs de l'Érigor qui sont rémois, il y a de fortes chances qu'ils aient été dans la rue et samedi et mercredi. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu une première discussion, enfin, samedi après-midi. Je l'évoquais tout à l'heure au cinquième étage de la maison des syndicats, grâce à la sympathie de la secrétaire de FO. Il faut le souligner quand même, c'est assez rare pour être souligné qu'il y a des gens qui soient réglo, qui nous a ouvert une salle, qui a permis... à des étudiants, à des éléments divers et à des gilets jaunes d'entamer quelques discussions. J'allais me dire juste de faire connaissance, déjà, pour un premier truc, de essayer de s'organiser pour faire des barrages filtrants mercredi matin sur les quatre principaux ronds-points giratoires d'accès de la ville. va bien voir ce que ça va donner, hein. C'est un barrage filtrant. Ce qu'on peut dire également, c'est que les cheminots reconduisent leur grève jusqu'à mercredi. On parle de 50 à 60% de révistes, notamment chez les roulants, ce qui permet d'avoir un trafic qui est très très faible. D'autre part, il y a une grève avec blocage et occupation à Enedis. Ne sont assurés que les urgences et les astreintes. Le pôle du secteur Farman est toujours bloqué et occupé par les grévistes. C'est intéressant. Malheureusement, il y a assez peu de communication et de mise en relation avec ces grévistes. Ça serait bien d'aller les voir pour pouvoir échanger. En ce qui concerne l'intersyndicale, c'est une catastrophe, hein, mais ça, on le savait. Pas d'AG, pas d'ouverture, pas d'élargissement, une réduction la succession de ces journées, un peu d'action, beaucoup de manifestations, pas de tract dans les manifs, toujours pas d'initiative, personne ne prend l'initiative, tout ça laisse couler. Donc pour le moment, on va se contenter de ce que l'on a, quoi. Hein. Évidemment, hein, on peut pas non plus créer des choses ex nihilo. Ça, c'est sûr que si ça correspond pas à une volonté et à une mise en action de la part des Rémois et des Rémoises, il passera rien d'autre. Hein. Il s'agit pas de faire du volontarisme à tout craint. Alors. Est-ce que cette première rencontre et ces premiers échanges d'actions où tout le monde est un petit peu mélangé sur les giratoires va permettre de sédimenter quelque chose? Bon, on peut l'espérer peut-être, hein, je sais pas. Mais il est sûr que c'est avec le type de tract tel que l'on a, c'est assez peu probable puisque on a une succession de points. Qui dénonce la réforme des retraites. C'est tout bien tout honneur, hein, évidemment, hein, mais de notre point de vue, c'est évidemment la réforme des retraites qu'il faut dénoncer, mais aussi parler de la question du travail, parler de la question de la situation sociale aujourd'hui. C'est pas faire plus ou être plus maximaliste, c'est-à-dire que sur la question des retraites, oui, bien sûr, il faut le dénoncer, mais je crois qu'il n'y a plus grand chose à dénoncer sur cette thématique là. Tout a été mis à jour et que de toute façon le gouvernement sur cette réforme il a déjà à poil. C'est pas la peine, le roi est nu, donc c'est pas la peine de pousser plus en allant, d'autant plus que pour grand nombre de travailleurs la retraite c'est quelque chose de très chimérique, de très très loin, de très très immatériel, de très très abstrait.
Sauf pour ceux qui y sont.
Ouais.
Comment dire, je vais te dire un truc quand même, ouais. qui m'énerve profondément, c'est Oula. Les histoires des 64 ans. C'est-à-dire que personne, au niveau central, n'a posé le problème des annuités. C'est ça qui est important. C'est les annuités. Quand tu regardes un petit peu les gens qui bossent et qui arrivent proches de la retraite, ce qui compte pour eux, le montant de leur retraite, va dépendre des annuités qu'ils ont réussi à avoir. Et généralement, bien souvent, ils vont au-delà des 64 ans lorsque leur santé leur permet. Parce que tout simplement, ça leur permet de faire une retraite un peu plus importante et sans avoir des coupes sombres dedans. Donc voilà, je crois que le coût des 43 annuités n'est pas du tout remis en cause, ce qui est quand même complètement dommage. On te parle de ce qui se passe en Allemagne, en Suède, etc. Sauf que la France, faut le savoir, c'est le pays européen où le nombre d'annuités qu'il faut pour avoir sa retraite complète est le plus important. Alors effectivement, la retraite à 64 ans, c'est pas ça qui est déterminant. Hein. C'est vraiment le nombre d'annuités. Il faut rappeler aussi que le Parti socialiste qui était au pouvoir, soi-disant, avec Hollande, a tout fait aussi pour encadrer ces 43 annuités avec une certaine Marisol Touraine, qui a fait que ça s'est globalisé à ce moment-là. C'est pour ça qu'au niveau de la NUPES, là, le PS, ils n'insistent pas trop quand même, hein, parce que quand même, c'est quand même, ils sont quand même pour quelque chose quand même au
ça
niveau
va être
des
discret, ouais. Hein, voilà. Bon. Alors oui, bon, d'accord, je suis tout à fait d'accord sur le fait de déconstruire et de parler des choses qui sont techniques comme ça, mais je pense que pour pouvoir faire amplifier le mouvement et véritablement le lancer, il faut poser la seule question qui vaille, c'est-à-dire qu'il est hors de question de crever au boulot, quoi. Il est hors de question de crever au boulot, surtout dans cette époque où on a des salaires de merde, dans des conditions de travail de merde, et avec des gens qui se gravent. Donc la question qu'il faut se poser, c'est nous ne crèverons pas au boulot.
Façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastule, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Alles gleich bleibt. Wir gehen zurück in der Zeit. We don't want it.
We don't like it.
We don't want it.
We don't like it.
We don't want it.
We don't like it.
We don't want it.